RFI.
Média Sport, Éric Manrut.
Bonsoir, bonsoir tout le monde. À l'honneur ce soir dans Mondial Sport, Lionel Messi qui fait des étincelles. Le 15 de France du rugby qui gagne enfin, du basket africain avec les qualifications pour le prochain mondial et la NBA qui s'installe sur le continent. Le Tour du Rwanda cycliste, il prend son envol demain. Et puis le breakdance qui devient sport olympique, ce sera en 2024. Tout cela mis en valeur ce soir par Alice Ménard, Pauline Leduc et Jean-Philippe Thury. Mondial Sport, on est parti avec un Argentin qui décidément a bien du génie.
Rakitic va il centro italiano, golazo, golazo, gol, sí, 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 de Barcelona. Qué golazo, Leo. Qué golazo, Messi.
Lionel Messi a encore frappé et plutôt trois fois qu'une. Trois buts plus une passe décisive. Telle est la feuille de route du génie argentin du FC Barcelone. Cet après-midi au stade Sánchez Pizjuán lors de la 25e journée de la Liga. Victoire 4-2 sur la pelouse du FC Séville. Cela valait bien un coup de fil à notre correspondant en Catalogne, François David. Buenas noches.
Buenas noches, Eric. Bonsoir à tous et à toutes.
Alors François, Messi a véritablement tiré son équipe d'un mauvais pas car le Barça était mal embarqué dans ce match face aux Andalous.
Ah bah plus que mal embarqué même, hein, puisque c'est le FC Séville qui avait ouvert le score grâce à l'inusable Jesús Navas, l'ancien joueur de Manchester City. Le Barça qui était même mené 2-1 par le FC Séville grâce à un but d'un autre Argentin, Gabriel Mercado. Et finalement, la magie est apparue. Une nouvelle fois, c'est Messi qui a sauvé le Barça. Messi a égalisé. Messi a donné l'avantage au Barça avant d'offrir le quatrième but à Luis Suarez sur une nouvelle passe décisive. Alors le Barça, qui était bien malmené en première mi-temps, Ernesto Valverde a rectifié quelque chose en seconde mi-temps en donnant du temps de jeu à Ousmane Dembélé et à Carles Alenia, le jeune joueur du centre de formation du Barça, le jeune milieu de terrain gaucher. Eh bien, on a vu qu'avec plus de talent, Lionel Messi se sentait plus à l'aise sur le terrain. Et on espère que dans les prochaines semaines, Valverde et tout le staff technique auront appris peut-être de ce match-là en alignant plus de joueurs avec du ballon, avec plus de jeux autour de Messi qui était jusqu'à présent un petit peu seul pour la création. Mais énorme match, encore une fois, de Lionel Messi, une légende définitive du football mondial.
L'Argentin qui affole une nouvelle fois les statistiques.
Alors on y va. C'est le 50e triplé de sa carrière. Il a marqué 585 buts avec le Barça, 650 pour le total de sa carrière en 797 matchs. En cette année 2019, depuis janvier, 11 matchs, 11 buts pour Lionel Messi. Et depuis le début de la saison en Liga, 25 buts et 11 passes décisives. Ça fait 10 ans de suite, Eric, que Messi atteint la barre des 25 buts. Cette année, il a marqué 25 buts en 23 matchs de Liga. Et si on compte tous les matchs officiels, donc Coupe du Roi et Ligue des Champions, c'est 32 matchs pour 33 buts et 15 passes décisives. Des chiffres absolument stratosphériques pour Lionel Messi.
Ça atteint le vertige. Alors, belle journée pour Messi, mais aussi pour Luis Suarez, le Uruguayen, auteur du quatrième but, et qui se rassure un peu après avoir beaucoup été critiqué ces derniers temps.
Normal, parce que c'est vrai que Luis Suarez n'était pas dans une bonne phase en Liga. Ça faisait plus d'un mois qu'il n'avait plus marqué un but Luis Suarez. On rappelle qu'en Ligue des Champions cette année, il n'a pas encore ouvert les compteurs Luis Suarez, mais en Liga, il répond présent. 17 buts au total pour Luis Suarez. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant pour Luis Suarez. On dit de lui qu'il est protégé, que c'est l'ami de Messi, que Valverde le met pour ne pas froisser les stars de son vestiaire. Mais c'est vrai qu'à la fin, il marque. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire que c'est peut-être l'avant-centre le plus dur à contrôler pour un défenseur. Mais c'est vrai que quelquefois, il peut être frustrant, Luis Suarez. Aujourd'hui, il a marqué. Il a quand même donné la victoire au FC Barcelone en marquant ce quatrième but. Mais Eric, on attend quand même beaucoup mieux du buteur uruguayen de 32 ans du FC Barcelone.
Un petit mot sur le retour de Samuel Umtiti, le défenseur français titulaire aujourd'hui.
Et oui, il ne jouait plus depuis novembre dernier. Il a été titulaire cet après-midi, Umtiti. Ça s'est pas très bien passé. Il est impliqué sur les deux buts. Umtiti, on sent qu'il est en manque de rythme, en manque de sensation, en manque de minutes. Le champion du monde français, on espère qu'au fil des semaines, déjà d'une, que son genou va tenir, parce qu'il était quand même beaucoup blessé ces derniers temps à son genou, et qu'il va retrouver la forme, Samuel Umtiti, parce que c'est un joueur essentiel pour le Barça. Ça n'a pas été une bonne journée pour lui, mais on espère que dans les semaines à venir, ce sera beaucoup mieux pour Umtiti.
Cette victoire de FC Barcelone, elle est particulièrement importante, juste avant un double rendez-vous crucial face au Real Madrid la semaine qui vient.
Bah, déjà ce soir, Eric, le Barça à 10 points d'avance sur l'Atlético de Madrid qui jouera demain contre Villarreal, et 12 points d'avance sur le Real Madrid qui jouera demain contre Levante. Beaucoup d'observateurs pensent ce soir, Eric, qu'en gagnant sur le terrain du FC Séville, eh bien le Barça a fait un grand pas vers le titre. À confirmer la semaine prochaine pour le Clasico, le plus grand match du monde entre le Real Madrid et le Barça. Cette fois, c'est Barcelone qui ira au Santiago Bernabéu, peut-être pour faire un pas de plus en plus décisif vers un nouveau titre de champion d'Espagne pour le Barça.
En attendant le Clasico de samedi prochain, le Barça et le Real s'affronteront une première fois. Ce sera mercredi prochain à Madrid à l'occasion de la demi-finale retour de la Coupe du Roi. Muchas gracias François David. À très vite sur RFI. Si la Liga a Messi, la Ligue 1 a Kylian Mbappé. La star du PSG est devenue cet après-midi le plus jeune joueur à marquer plus de 50 buts en Ligue 1. Mbappé en a marqué 2 au Parc des Princes à l'occasion de la victoire 3-0 du PSG contre Nîmes lors de son match de la 26e journée. Le voilà exactement à 51 buts inscrits en Ligue 1. Il fait ainsi mieux que Yannick Stopira qui avait fait à 21 ans, en 1982, il avait atteint cette barre symbolique des 50 buts. Mbappé, qui est par ailleurs le meilleur buteur actuel du championnat avec désormais 22 buts au compteur. Au classement, le club parisien augmente ainsi son avance en tête. 17 points de mieux que son dauphin lillois. Lille accroché hier à Strasbourg, un partout. Ce soir encore deux résultats. Amiens battu Nice 1-0, même score pour Guingamp devant Angers. En Angleterre, surprise avec la première défaite de l'année pour Tottenham à l'occasion du 27e épisode. Les Spurs d'Hugo Lloris sont cédés 2-1 sur le terrain de Burnley. Il reste du coup 3e à 5 longueurs du duo de tête, Manchester City et Liverpool. Les Reds qui s'en iront défier demain Manchester United. De leur côté, les Citizens disputeront la finale de la Coupe de Ligue contre Chelsea à Wembley. Et puis la Bundesliga, 23e journée ce week-end. Le Bayern Munich rejoint provisoirement le Borussia Dortmund en tête du classement. Les Bavarois ont battu chichement le Hertha Berlin 1-0. La pression donc demain pour les jaunes et noirs de Lucien Fabre qui recevront le 5e, à savoir le Bayer Leverkusen. Le rugby français respire. Le 15 tricolore a gagné son premier match dans le tournoi des 6 nations. C'était cet après-midi au Stade de France face à l'Écosse. Le score 27-10 pour les Bleus de Jacques Brunel qui avait connu la défaite lors des deux premières journées face au Pays de Galles, puis en Angleterre. Une victoire avec 4 essais à la clé, ô combien précieuse. Elle a été impulsée par les jeunes de ce 15 de France, comme nous le raconte Cédric de Oliveira.
Ils étaient très attendus et ils ont répondu présent. Romain Tamac, Antoine Dupont, Thomas Ramos, Demba Bemba ou encore Félix Lambet, tous à leur manière ont joué un rôle prépondérant dans la victoire des Bleus face à l'Écosse. Et le sélectionneur Jacques Brunel est bien évidemment satisfait d'avoir fait confiance à ces jeunes joueurs.
Ils ont montré et de l'enthousiasme parce qu'on savait qu'ils pouvaient l'amener, mais également de la maîtrise parce qu'il a fallu en avoir avec... 3 ou 4 essais refusés, il faut tenir la tête solide, il ne faut pas douter. Donc même les jeunes n'ont pas douté, donc ça c'est bien.
La charnière composée d'Antoine Dupont à la mêlée et de Romain Tamac à l'ouverture n'a pas semblé souffrir de son inexpérience. Dupont a été entreprenant comme à son habitude et impliqué sur 2 essais. Quant à Tamac, il a franchi l'en-but pour la première fois en bleu dès sa 3e sélection. Du haut de ses 19 ans, il savoure la confiance donnée par ses coéquipiers.
Ça s'est très bien passé, c'est vrai qu'on s'est beaucoup parlé avant le match, pendant le match, à la mi-temps, on s'est dit un peu ce qu'il fallait qu'on fasse. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde nous a écoutés, ils n'ont pas fait référence à nos âges ou à nos expériences. Je pense que ce soit Guillaume ou Mathieu ou les plus anciens, ils nous ont tous laissé un peu les clés du camion, ils nous ont dit de diriger le jeu et je pense qu'on l'a plutôt bien fait. Et après, quand on a la confiance des joueurs, après c'est plus facile de jouer, c'est de libérer.
À l'arrière, Thomas Ramos a beaucoup tenté également, notamment sur la percée qui a provoqué l'essai de Ntamak. Pour sa première titularisation, le jeune Toulousain n'a pas semblé lui non plus impressionné, même si la semaine a été longue pour lui, car il savait qu'il allait endosser le rôle du buteur.
Plus les jours approchés, le match, forcément on y pense et on a envie d'y être, c'est surtout ça. C'est pas tellement la pression de jouer, c'est la pression avec hâte de commencer. Après, vu la compo, je me doutais que j'allais être buteur, ils me l'ont dit très tôt dans la semaine, donc... Voilà, après, aujourd'hui, je notamment sur le but, c'est pas très très positif. Donc, c'est à moi de travailler pour être plus précis à ce niveau-là.
50% de réussite entre les poteaux pour Ramos, c'est le gros bémol de sa prestation. Pas de quoi crisper ses partenaires à l'image du trois-quarts centre Mathieu Bastaro. Ces jeunes bleus doivent être accompagnés le mieux possible.
Je pense qu'ils apportent beaucoup de fraîcheur dans le groupe. C'était pas un match facile à préparer pour eux aussi cette semaine, parce qu'il y a beaucoup de pression. Dans ces cas-là, c'est à nous les anciens de se mettre un peu en bouclier et les aider au mieux à gérer leur préparation et ce match.
Après cette victoire salutaire, les Bleus vont ensuite se plonger dans la préparation de leur prochain match en Irlande dans deux semaines. Une autre paire de manches pour la jeunesse tricolore.
Et de son côté, le Pays de Galles a enchaîné sa troisième victoire en trois matchs dans son noir en dominant l'Angleterre 21-13.
Abidjan, 97.6 FM.
Nous nous rendons effectivement en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour parler de basket africain en compagnie de Martin Guez. Bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Alors Abidjan se dispute actuellement la dernière fenêtre des qualifications pour le mondial dans la zone africaine.
Oui, un mondial qui se disputera en Chine, ce sera en septembre prochain. Et il ne reste plus qu'un seul ticket à prendre, trois équipes étaient encore en course pour le précieux sésame. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Centrafrique, je dis bien été Eric, car c'en est désormais terminé des espoirs centrafricains. Il aurait fallu un miracle avec une très large victoire face au leader du groupe, le Nigeria, déjà qualifié. Un miracle qui n'a pas eu lieu malgré les encouragements de leurs fans venus nombreux au palais des sports de Trècheville. Défaite 72-59, la Centrafrique qui ne participera pas à son premier mondial depuis 1974. Dommage pour l'intérieur de la Centrafrique, Jim Rabaye. Dommage pour lui, pour son équipe, mais aussi pour tout son pays, particulièrement féru de basket.
On savait que ça allait être un match de combat, ça serait vraiment physique et tout, mais je pense qu'on a fait un peu trop de pertes de balles. On peut que s'en vouloir parce que c'est pas les arbitres qui nous ont volé le match, mais c'est nous-mêmes. On aurait dû rentrer mieux dans le match. Le basket, c'est le sport roi en Centrafrique. Donc partout on va jouer là. Il y a la diaspora, elle est là. Aujourd'hui, on a un sentiment de ne pas leur donner ce qu'ils méritent. On vient de loin, on est conscient et petit à petit on est là. Là aujourd'hui, on est dans le top 8. Africaine, c'est pas mal déjà, alors qu'il y a quelques années, on était 13e, 14e. Donc ça va, on fait un travail de fond, tout doucement, et on arrive.
C'est fini donc pour la Centrafrique. Du coup, il ne reste plus que deux équipes encore en course pour le billet qualificatif pour le mondial. Il s'agit du Cameroun et de la Côte d'Ivoire.
Et oui, des Camerounais qui observent tout ça de loin, eux qui ont déjà disputé tous leurs matchs. Tandis que la Côte d'Ivoire a son destin en main à domicile, les Ivoiriens qui doivent gagner leurs deux derniers matchs, si possible largement. Une mission qui débutait ce soir face au Rwanda. Et à quelques minutes, peut-être même quelques secondes de la fin de la rencontre, on retrouve à Abidjan notre correspondant Yoann Gourlet. Bonsoir Yoann.
Bonsoir Martin.
Alors, est-ce que la Côte d'Ivoire est en bonne voie ?
Alors, c'est même en très bonne voie. Il reste précisément 4 minutes à jouer dans ce dernier quart-temps et les éléphants sont totalement déchaînés. Les Ivoiriens mènent 77-51 contre une faible équipe rwandaise, dernière de la poule et déjà éliminée. Les hommes de Paolo David et Povia sont en train d'accomplir une mission que beaucoup pensaient impossible, remporter leurs 3 derniers matchs avec au moins en moyenne 22 points d'avance. Hier soir, ils ont déjà créé la sensation en battant lourdement les Nigérians, leader et jusque-là invaincu avec 26 points d'avance. Et pour l'instant, donc, rebelote, les Ivoiriens mènent de 26 points. Si on en reste là, ils n'auront plus qu'à battre les Maliens, avant-dernier de ce groupe F. Demain soir, avec seulement 14 points d'avance pour chipper in extremis la place de meilleur troisième au Camerounais, troisième du groupe E. Ils participeraient alors à leur quatrième mondial cet été après 82, 86 et 2010. Objectif plus que jamais à leur portée, qui plus est, devant un public toujours aussi chaud.
Eh bien, merci beaucoup Yoann, on vous retrouve demain soir pour la fin de la compétition. Il y avait un troisième match aujourd'hui qui était sans enjeu pour un Sénégal fraîchement qualifié. Des Sénégalais faciles vainqueurs du Mali, 62-38 aujourd'hui, et qui ont obtenu hier face au Rwanda leur ticket qualificatif grâce à une large victoire. Ils rejoignent le Nigeria, la Tunisie et l'Angola.
Alors Martin, on va rester sur les parquets africains avec cette nouvelle qui a pris un petit peu tout le monde de court. Le week-end dernier, la toute puissante NBA a annoncé la création d'une nouvelle ligue pour développer le basket sur le continent africain.
Et réunis à Charlotte aux États-Unis pour le All-Star Game, les dirigeants de la NBA ont surpris avec ce gros chantier en perspective pour lequel même Barack Obama pourrait mouiller le maillot. Mais le projet est resté assez vague. Va-t-on vers des super franchises africaines, vers une ligue parallèle à la NBA? Quel développement pour le basket africain? Autant de questions qui sont restées en suspens et des questions qu'Hugo Moissonnier et David Kalfa ont pu poser à Amadou Gallofal, vice-président sénégalais de la NBA. Dans un premier temps, le but est surtout de développer l'Africa League, une nouvelle compétition certifiée FIBA, la Fédération internationale de basket.
Nous allons effectivement travailler la main dans la main avec la FIBA, d'abord pour apporter notre support sur l'existant. Il y a une compétition effectivement qui a été étendue, mais nous venons pour reformuler cette compétition entièrement, la rendre beaucoup plus attrayante. Je sais qu'il y a beaucoup mieux à faire. Et je pense que, à l'image du basketball africain en général, avec la qualité des joueurs qui reviennent, par exemple, jouer en équipe nationale, ce que la Basketball Africa League va engendrer comme opportunité pour tout ce talent africain qui évolue partout dans le monde, d'avoir le choix de pouvoir opérer dans le pays même.
La NBA, quelque part, exporte son savoir-faire. Pourquoi avoir choisi l'Afrique pour créer une nouvelle compétition NBA?
Parce que nous avons une très longue histoire ici en Afrique. On a vu le nombre de joueurs qui ont évolué dans la Ligue depuis Hakim Olajuwon, l'un des 50 meilleurs joueurs de tous les temps. On connaît tous les autres pionniers, Manute Bol, Dikembe Mutombo, et tout un ensemble de jeunes talents qui ont évolué dans notre Ligue. Et des superstars maintenant comme Joel Embiid, deux fois All-Star status. 10 jeunes Africains depuis 2003, le lancement du Basketball Without Borders Africa Camp, 10 jeunes joueurs ont été draftés à partir de ce camp. C'est une évolution logique du travail que la NBA fait depuis plusieurs décennies, mais qui s'est accéléré avec l'ouverture du bureau NBA Afrique en 2010. Au début, nous nous sommes focalisés sur le travail à la base pour juste rendre le jeu accessible. Et on a vu qu'un grand nombre de jeunes s'y sont mis. Nous avons lancé des ligues junior NBA dans 13 pays actuellement. Nous avons organisé 3 matchs NBA Africa Game à Johannesburg. Et je pense que cette ligue vient vraiment complémenter tout ce travail, parce que ce qu'il fallait maintenant, ce qui manquait, c'est ce niveau où tous les jeunes qui jouent au basket aspirent à atteindre ce niveau élite. Évidemment, la NBA va toujours être là comme destination ultime, mais on sait que c'est un tout petit pourcentage du talent qui existe qui va avoir accès à la NBA, mais la Basketball Africa League va effectivement présenter une opportunité d'atteindre ce niveau qui sera le summum ici en termes de, au niveau club en Afrique.
Mais alors, est-ce qu'à très long terme, l'idée, c'est de créer une antichambre pour la NBA ou bien de créer une deuxième NBA aussi puissante que la NBA nord-américaine déjà existante?
Dans le long terme, nous avons comme objectif de présenter un produit qui pourrait se vendre n'importe où. Évidemment, la NBA est directement impliquée. Toutes nos compétences en termes de marketing de ce sport, de diffusion, nous allons nous atteler à donner l'opportunité à cette ligue de pouvoir se développer à un niveau très, très spécial.
Le basket manque clairement de moyens en Afrique pour se développer. Est-ce que la NBA n'est pas en fait en train de faire le travail de promotion, de développement du basket en Afrique que devrait faire la FIBA?
Nous avons un partenariat avec la FIBA. C'est là où je pense que les objectifs convergent. L'important pour nous, c'est que le basketball africain rayonne. C'est que le basketball africain soit respecté sur la scène mondiale. La FIBA, reconnaissons-le, sait organiser des compétitions internationales au niveau des équipes nationales. Nous venons avec des moyens. N'oublions pas que la NBA est membre de la FIBA. Il y a un travail de collaboration qui va prendre juste beaucoup plus d'ampleur, mais nous travaillons déjà avec la FIBA sur beaucoup de domaines.
Amadou Gallofal, le vice-président sénégalais de la NBA. Allez, on quitte les parquets, Martin, pour l'asphalte. On va parler vélo, toujours en Afrique.
Nous tous, nous aimons le Tour du Rwanda. C'est le spectacle. Et c'est génial, vraiment.
Ce serait encore mieux si on pouvait le voir deux fois dans l'année, le Tour du Rwanda. Au lieu d'une fois, c'est tellement amusant. On adore ça.
Déjà, j'ai attendu toute l'année.
Le meilleur, c'est Alléluia Joseph. Comment elle se comporte, vraiment, j'aime Alléluia Joseph.
En français, en anglais ou même en Kinyarwanda, Rwanda, il est sur toutes les lèvres. C'est, Martin, le 11e tour cycliste du Rwanda.
Et tout le monde en parle à Kigali, le tour qui s'élancera d'ailleurs de la capitale rwandaise demain. Mais cette 11e édition sera un petit peu spéciale. Une curiosité scrutée par l'œil avisé de Thomas de Saint-Léger, notre envoyé spécial. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Martin, bonsoir tout le monde.
Alors une édition un petit peu particulière parce que pour la première fois, l'épreuve a lieu en début d'année. Et surtout, c'est d'ailleurs la raison de ce changement de date, elle accueille des équipes du plus haut niveau mondial.
Oui, changement de braquet qui s'explique par une décision de l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, prise en 2017, effective aujourd'hui. Le passage du Tour du Rwanda de la catégorie 2.2 à la catégorie 2.1, c'est très technique et si ça ne vous dit rien, c'est pas grave. Retenez simplement qu'avec cette montée en gamme, la course peut s'offrir un plateau de choix. Les meilleures équipes africaines, Rwanda, Érythrée, Algérie, Cameroun bien sûr, mais aussi des formations plutôt habituées au Tour de France, comme Direct Energy ou Astana, l'ancienne équipe d'Alberto Contador, de Vincenzo Nibali, pour ne citer qu'un coup de boost finalement assez logique pour cette épreuve très populaire, spectaculaire aussi, avec de la ferveur, un parcours très vallonné. Y participer, c'était une évidence pour un grand amoureux du continent, l'incontournable manager de Direct Energy, Jean-René Bernodeau.
On est curieux d'abord parce que le Rwanda vient pas d'arriver dans le cyclisme. Ils ont fait un travail de fond avec une épreuve qui est rodée. Puis surtout, ils ont fabriqué des coureurs de très haut niveau. Donc voilà, il y a un peuple, il y a des coureurs, il y a une course qui monte en catégorie. Puis nous, les équipes du circuit européen, devenons incontournables pour donner un peu de crédibilité à cette évolution. Si les équipes professionnelles ne se rendent pas dans des épreuves comme celle-ci, c'est vraiment un frein. Donc ben, moi, j'ai l'envie, c'est vrai que ça me fait du bien d'amener un peu de fraternité dans des peuples qui ont envie de qui nous regardent autour de France, qui nous regardent avec des grands yeux. Donc on est là pour les aider à y croire. Et puis si on a des bons talents, on les oriente sur les bonnes filières.
C'est le futur, le Tour du Rwanda ?
C'est l'exemple à suivre pour que tout ce continent fabuleux où il y a de la jeunesse, qui a du talent, se mettre au cyclisme.
Et puis sur le continent, Thomas, certains s'y sont mis depuis plus longtemps que d'autres. On pense donc à l'Érythrée et bien sûr au Rwanda qui a fourni les 5 derniers vainqueurs de l'épreuve. Et cette année, ce sera forcément plus compliqué pour ces équipes nationales.
C'est sûr Martin, même si, attention, des coureurs érythréens et rwandais sont maintenant sous pavillon européen, au sein en tout cas d'équipes professionnelles européennes. On va en reparler, la concurrence est forcément plus féroce pour les meilleurs représentants du continent. En tout cas, il y aura match, c'est l'avis d'un grand connaisseur du cyclisme africain, le journaliste du quotidien L'Équipe, Philippe Legarce.
Je pense qu'il va y avoir quand même un effet d'adaptation assez dur pour les équipes européennes. On monte quand même à 2500-2600 mètres d'altitude, ce qui n'est pas à cette époque-ci de la saison, c'est pas courant. Les Érythréens, les Rwandais sont plus habitués à ce genre de route aussi, donc à ce genre d'altitude. Bon, maintenant les professionnels, ils ont aussi cette habitude, cette capacité, cette facilité d'adaptation, donc ça va partir à égalité. Mais bon, allez, un petit avantage pour les Africains, les Rwandais, les Érythréens.
Les Érythréens donc et les Rwandais favoris selon Philippe Legarce. Il faut dire qu'ils auront plusieurs cartes à abattre.
D'abord au sein de leurs équipes nationales, l'Érythrée, c'est très jeune, très fort, avec notamment le récent vainqueur du Tour de l'Espoir, Jacob Debessaye, accompagné par son grand frère, l'ancien professionnel Mekseb. Le Rwanda, c'est pas mal non plus, deux équipes avec deux anciens vainqueurs, Valens Daisenga et Jean Bosco Sanguimana. Et puis se cachent sous d'autres maillots les vainqueurs 2017 et 2018, Joseph Areruya pour Delco, Samuel Mugisha pour Dimension Data Fort Kubeka. Un Érythréen se cache aussi dans l'équipe Astana, Merawi Kudus, sixième en 2012. Il avait 18 ans depuis. Il a bien grandi, il a un statut à assumer et forcément, ça met un petit peu de pression.
Oui, bien sûr, nous avons un peu de pression. Mais nous aurons un coureur en moins. Il s'est blessé récemment au Tour de Colombie, nous ne serons que quatre. Donc ça va être difficile de contrôler la course. Mais je vais faire de mon mieux, comme toujours. Que ce soit pour le classement général ou pas. J'espère rendre les fans heureux et obtenir un bon résultat.
Un bon résultat, c'est ce qu'espère aussi sans doute les Camerounais, Thomas.
Emmené par Clovis Kamzong à Bessolo, les Camerounais voudront, c'est sûr, bien figurer, même si le terrain ne leur sera pas très favorable. Pas moins de 36 ascensions répertoriées tout au long des 8 étapes. Des passages à 2500 mètres d'altitude, c'est un peu dur pour eux, même si demain, on commence en douceur, façon de parler bien sûr, avec l'étape sur le papier la plus facile, une boucle de 112 km autour de Kigali.
Eh bien, merci beaucoup, Thomas de Saint-Léger. On vous retrouve dès demain pour cette première étape autour de la capitale. Quant à moi, Eric, je vous retrouve demain soir.
Merci, à demain, Martin Guèze. Innover et surprendre, cela semble être plus que jamais la devise des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le comité d'organisation a fait plusieurs annonces cette semaine, à commencer par sa liste des sports dits additionnels qu'il souhaite ajouter au programme en plus des 28 sports historiques. 19 disciplines avaient fait acte de candidature, comme le squash, la pétanque ou le billard, mais finalement rien de tout ça. Les heureux élus sont au nombre de 4, un seul étant totalement inédit. Il s'agit du breakdance, un choix clairement destiné à rapprocher les jeux des plus jeunes. Écoutez le reportage de Christophe Diremzian.
Welcome to the BC One World Finals. Préparez-vous, les B-Boys et les B-Girls débarquent bientôt au JO. Émanation de cette culture urbaine née dans le Bronx du début des années 70, le breakdance est l'incarnation de l'air du temps qu'a su capter le CIO, soucieux d'ancrer davantage sa vénérable compétition dans le 21e siècle. L'avoir introduit au programme des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires en octobre dernier est donc tout sauf un hasard. Pour Jean-Philippe Gassien, le directeur des sports de Paris 2024, il colle parfaitement à sa vision des Jeux.
Il y a une réelle performance athlétique. Il était important pour nous de faire ce lien aussi entre sport et culture, et je trouve que ce mélange de sport, de danse avec une connotation de performance qui est vraiment extrêmement importante dans ce sport, et le côté jeunesse, facile d'accès, cette volonté aussi de mettre le sport au cœur des villes, de les sortir du stade, je pense que ce sont aussi des choses qui ont beaucoup œuvré pour cette décision.
Le breakdance revendique 30 millions d'adeptes dans le monde, une estimation difficile à vérifier car rares sont les pratiquants licenciés. La Fédération française de tutelle, celle de danse sportive, parle de 6 000 adhérents, mais en réalité la France, deuxième nation derrière les États-Unis, pèse beaucoup dans le milieu, explique Mounir Biba, le capitaine des Vagabond Crew, l'équipe la plus titrée au monde.
La France dispose du plus grand nombre de compétitions à l'année, les plus grosses compétitions internationales. Donc la France est un pays singulier dans le monde car c'est un pays totalement indépendant en termes de danse hip-hop. Et toutes les danses hip-hop sont représentées ici en France et disposent des meilleurs artistes. Ça va des athlètes champions du monde jusqu'aux chorégraphes de Madonna, des chorégraphes du Cirque du Soleil. Il y en a Sofia Boutella qui aujourd'hui mène une carrière à Hollywood. Elle est issue de la breakdance.
Reste maintenant à réfléchir au format de compétition pour les Jeux de Paris, où figureront 3 autres sports additionnels déjà prévus à Tokyo l'an prochain, l'escalade, le skateboard et le surf, une discipline qui sera très certainement reconduite à Los Angeles en 2028, à la grande joie de Justine Dupont, 3 fois vice-championne du monde, ravie de voir le milieu olympique se renouveler pour les jeunes générations.
Le fait d'intégrer tous ces jeux-là, c'est la preuve que le souhait était là, d'embarquer toute la population et que ça soit pas que les grands-parents et les parents devant leur télé qui sont acteurs, qui ont envie de suivre tout ça, mais aussi voilà, les jeunes qui ont des rêves et qui se disent pas « Bon, mais moi, je fais ce sport, du coup, je pourrais pas aller aux Jeux Olympiques. » Et même une discipline qui n'est pas encore aux Jeux Olympiques, on peut toujours rêver d'avoir une médaille olympique un jour, puisque voilà, peut-être que ça rentrera aux Jeux un jour.
Désireux également de réinventer l'expérience des spectateurs des Jeux, Paris 2024 veut désormais aussi en faire des acteurs de l'événement. Ainsi, le marathon sera accompagné d'une épreuve ouverte au grand public sur le même parcours. Tony Estanguet, le président du comité d'organisation, envisage même déjà d'ouvrir d'autres sports aux amateurs.
On a déjà discuté avec d'autres fédérations internationales, notamment l'UCI, parce que on sait que ce serait aussi assez incroyable d'ouvrir cette course de route au grand public. Mais tout ça va être à construire maintenant avec les fédérations internationales concernées sur le mode de qualification. Et clairement, on ne veut pas que ce soit réservé aux meilleurs athlètes du pays. Non, on veut des jeux ouverts, on veut des jeux accessibles, on veut des jeux qui se pratiquent dans un bon état d'esprit, famille, et c'est pas la performance qu'on va rechercher dans ces épreuves de masse.
Mais avant de définir les modalités de ces épreuves pour tous, le comité va devoir finaliser le dossier des nouveaux entrants avec le CIO. L'institution olympique validera définitivement leur entrée au programme en décembre 2020, avec l'obligation d'inclure les quelques 250 athlètes supplémentaires prévus dans le strict quota de 10 500 pour l'ensemble des jeux.
On va se quitter sur un peu de musique urbaine, musique de breakdance pour parler tennis et le retour gagnant de Belinda Bencic après 3 années polluées par les blessures. La Suissesse a décroché aujourd'hui le 3e titre de sa carrière, le très important tournoi de Dubaï, et avec le panache puisqu'elle a épinglé cette semaine 4 top 10, Sabalenka, Halep, Svitolina et Pliskova en finale. Belinda Bencic qui sera 23e mondial lundi prochain. Voilà, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve demain, évidemment, à la même heure, en compagnie toujours d'Alice Ménard et de Pauline Leduc. Très bonne soirée à vous.